L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Raize automatique à partir de 3900 francs seulement.
Et ce matin, nous allons nous intéresser à la situation des hôtels en province des îles et plus particulièrement au dossier du Ouadraba. Jacques Dralu, bonjour.
Bonjour Nicolas,
merci.
Bonjour aux auditeurs de RRB.
Merci d'être avec nous, vous êtes le président de la SODIL. Alors que l'hôtel de luxe de Lifou, on en a parlé, a été placé en redressement judiciaire dernièrement par le tribunal de commerce en raison de nombreuses dettes et du fait qu'il ne soit pas ouvert et qu'il n'ait donc pas de recettes. Comment vous avez accueilli cette décision ?
On l'a accueilli avec soulagement. D'une part parce que le tribunal avait demandé la liquidation de la société. Et lorsque on a obtenu donc le redressement judiciaire, donc comme vous le savez, ça redonne une deuxième chance à la société pour pouvoir continuer donc le projet, bien sûr, terminer ce qu'on a à faire, et puis l'ouvrir éventuellement dans les mois prochains. Donc c'est l'objectif qu'on s'est fixé au niveau de la province des îles et de la SODIL.
Donc vous avez une période d'observation de 6 mois durant laquelle vous allez continuer les travaux et remettre aussi en état le Ouadraba.
Oui, c'est ce qu'on a déjà commencé. Donc on a remis des équipes de celles de la sécurité, on a remis une petite équipe d'entretien, puis de femmes de ménage qui sont en train de toiletter tout ça. Et puis donc on est déjà en train de réfléchir à son ouverture éventuelle avec notre partenaire, puisque c'est intercontinental. Donc on a des visios fréquemment avec eux pour savoir quelle va être leur position, compte tenu du fait que la société est en redressement judiciaire. On a une réunion importante la semaine prochaine où je pense que les grandes décisions vont être prises.
Oui, parce que justement, il plane toujours l'incertitude de savoir si Intercontinental reste dans le projet, puisque le redressement judiciaire, finalement, est une clause suspensive du contrat qui vous lie avec eux.
Exactement. Exactement. Il faut savoir que venir pour une chaîne internationale.
Au vendredi 25 juillet, gagner un séjour à l'Otignon
qu'on a donné au niveau de, je dirais, politique et économique aujourd'hui, sont très négatifs pour une chaîne comme ça. Donc, c'est sûr qu'ils sont en train de repenser à leur stratégie en Nouvelle-Calédonie.
Et vous pensez d'ores et déjà un plan B avant même l'éventuelle annonce d'un retrait d'Intercontinental ?
On est obligé de penser à un plan B. Hein, donc il nous reste peu de temps, il n'y avait que 4 mois maintenant pour prouver au tribunal qu'on peut faire quelque chose avec cet hôtel. Donc on a déjà réfléchi à un plan B avec une gestion locale comme on le fait nous sur nos hôtels aux îles. Et donc on a déjà réfléchi aux responsables et on est en train déjà de contacter des salariés.
Jacques Jalouet, il y a quelques mois, on parlait d'une marche à blanc et d'une ouverture fin 2024. Comment vous expliquez que ce projet soit toujours pas sorti, il est sorti de terre, mais toujours pas concrétisé ?
Ben, je dirais que quand on regarde son historique, non seulement il faut aller le chercher très loin, parce que la réflexion sur la construction d'un hôtel 4 étoiles d'abord, puis 5 étoiles aujourd'hui, date de 2011. Donc il y a eu toute une période de réflexion, de recherche de financement, de contact avec l'État, puisque sur cet hôtel, il y a la double défiscalisation, il y a la défiscalisation métropolitaine, donc il a fallu aller chercher l'agrément. Donc aller chercher l'agrément, c'est d'avoir l'accord de l'État. Les élus de la province des îles, donc successifs, hein, puisque ça concerne quand même 3 mandats, ont toujours défendu le fait qu'il fallait développer un hôtel de 5 étoiles sur les îles, et notamment sur ce site à Ouadraba. Donc, une fois qu'ils avaient bouclé le financement, ils ont eu d'abord des discussions avec le Hilton. Suite à ça, le Hilton s'est retiré, il y a eu des discussions avec Intercontinental. Intercontinental a repris le dossier, il y a eu des surcoûts donc par rapport au fait qu'il voulait un 5 étoiles. Donc ça a entraîné des surcoûts.
On parle d'1,3 milliard à peu près, hein,
c'est ça ? Oui, de surcoûts, oui. Donc après, il faut rajouter le fait que le chantier a traversé le Covid. Donc il y a eu 2 ans où c'était tout au ralenti. Et puis bien sûr, le 13 mai a mis un coup d'arrêt au fait qu'ils allaient ouvrir. Intercontinental était prêt, ils avaient leur personnel sur place. Ils allaient l'ouvrir et puis il y a eu un coup d'arrêt et tout s'est arrêté. Voilà.
Alors si Intercontinental venait à quitter le projet, vous souhaitez repasser de 5 à 4 étoiles. C'est ça un petit peu la stratégie mise en place par la SODIL ?
Alors, compte tenu du contexte touristique qu'on a aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, et notamment sur la province des îles, hein, donc il y a une baisse du tourisme général par rapport à tout ce qui s'est passé avant. On a une période là où on sait que les grands groupes, et notamment on est en contact avec Intercontinental, jugent qu'un hôtel comme ça, ils ne pourront pas le remplir. Compte tenu du contexte touristique en Nouvelle-Calédonie. Donc notre stratégie, c'est de dire, au lieu d'attendre, c'est peut-être de l'ouvrir localement, avec un management local, pendant une période X, et en attendant des jours meilleurs, pour revenir après sur des chaînes comme Intercontinental ou d'autres, s'ils sont intéressés. Mais il y a cette période-là qu'on doit traverser, et ce n'est ni la faute d'Intercontinental, qui, eux, ont des principes, et on est vraiment... on n'a pas envoyé des bons signaux pour les attirer sur... au contraire, on les fait fuir. Tous les grands groupes touristiques ne vont pas investir ici ou ne vont pas proposer des contrats de gestion. Donc à nous aujourd'hui de démontrer qu'on peut faire du développement touristique, et notamment sur les îles Loyauté, parce que c'est une des seules richesses qu'on a pour distribuer des revenus aux gens. Donc il faut peut-être maintenant faire marcher notre imagination et trouver des solutions locales en attendant des jours meilleurs.
Alors, on le disait, hein, le surcoût pour passer de 4 à 5 étoiles était d'1,3 milliard. Est-ce que c'est pas aujourd'hui un peu dommage d'ouvrir à 4 étoiles, de se dire on diminue finalement pas l'infrastructure qui elle sera bien de qualité 5 étoiles, mais les services pour les clients?
Mais comme je le disais, je veux dire, mettre un 5 étoiles avec personne dedans, ça vaut pas le coup. Cette période transitoire dans laquelle qu'on est en train de réfléchir, c'est mettre l'hôtel à la portée peut-être du marché local. Il y a un marché sur Nouméa, le marché des îles, je vais vous dire, c'est le marché métropolitain. Les Australiens, ils arrivent par la croisière, donc c'est pas des touristes qui vont à l'hôtel. Peut-être après, s'ils veulent découvrir l'île, mais c'est pas l'Australie. Et puis il y a le marché local. Or, depuis les événements, il y a l'image de la province des îles par rapport à tout ce qui s'est passé, c'est dégradé. Donc on associe les îles aux événements, parce qu'il y a beaucoup de gens, des jeunes qui ont participé à ces événements. Donc il y a toute l'image à reconstruire. Il y a un travail à faire, mais je pense qu'il y a un marché porteur.
Et il y a un positionnement aussi en termes de tarifs, puisqu'on se souvient que les tarifs qui avaient été annoncés par Intercontinental faisaient fuir la clientèle locale. On savait que ça pouvait faire peur aux Calédoniens de payer plus de 100 000 francs pour une chambre, notamment.
Bien sûr. Oui, et ça va avec. Je veux dire, on va mettre en place des tarifs qui puissent convenir à la clientèle locale.
Alors, vos autres hôtels sont aussi en difficulté sur les îles, pour le contexte que vous rappelez. Là, vous avez pris des décisions vous-même, oui, de placement en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Ce sont des décisions qui, je suppose, sont quand même difficiles à prendre.
Bien sûr, parce que on a d'abord baissé la voilure, hein, c'est-à-dire qu'on a baissé, donc on a arrêté pas mal d'employés des hôtels. On s'est séparé quand même de la moitié des effectifs de nos 5 hôtels, donc c'est beaucoup. Et puis je voulais, comment rebondir, on va prendre l'exemple d'Ouvéa. Ouvéa, il y a plusieurs structures hôtelières, on en a deux, c'est le Sana et Paradis d'Ouvéa. Il y a eu les événements, mais avant les événements, il y avait un Air Calais desserté, desservait le Japon directement. Depuis que on a plus cette ligne, donc pour la Nouvelle-Calédonie, c'est 25 000 touristes en moins. Et pour nous, sur OVA, puisqu'il y avait quand même, sur les 25 000, il y avait entre 10 et 15 000 personnes japonais qui venaient. Donc aujourd'hui, Ouvéa, c'est le paradis d'Ouvéa, c'est 60% de chiffre d'affaires au moins, et le Sana aussi. Donc ces deux hôtels, on les a placés en redressement judiciaire compte tenu de la situation et pour sauvegarder les outils. Pour sauvegarder les outils en attendant demain que l'activité reprenne.
Du personnel qui pourrait être replacé sur le Bois de Rabais en cas d'ouverture, c'est...
On a l'obligation de reprendre, s'il y a des ouvertures de postes, de reprendre le personnel des hôtels qui ont été licenciés, mais tout ça se fera avec en concertation avec le GDPL qui est de Bois de Rabais.
Justement, puisque la société Gigadex qui doit exploiter donc le Bois de Rabais a un actionnariat composé de la Sodil et du GDPL, comment les propriétaires terriens prennent déjà la nouvelle de potentiellement un retrait d'Intercontinental et puis de la stratégie que vous mettez en place? Comment vous travaillez ensemble?
Je pense que hier on a eu une réunion avec eux, donc c'est vrai que ils sont dans le dossier depuis une dizaine d'années. Ils sont déçus de la façon dont les choses se passent aujourd'hui, mais il y a des éléments que l'on maîtrise et des éléments qu'on ne maîtrise pas dans l'activité touristique. Donc ce qu'on leur a proposé, c'est peut-être que c'est de les intégrer un peu plus dans les organes de décision de Gigadex et de prendre les grandes décisions avec nous. Donc on va accentuer la collaboration avec eux.
Vous parliez d'éléments qu'on ne maîtrise pas dans le tourisme. Il y a une question qui a été soulevée ce matin dont vous avez un avis sur RRB, c'est la question de la desserte aérienne ou maritime. Là aussi, il y a de grandes difficultés. Vous parliez de la clientèle nouméenne qui aurait peut-être peur de partir aux îles et de ne pas pouvoir revenir. Là aussi, vous travaillez sur ces sujets-là. Vous alertez, que ce soit Aircal ou le Betticho?
Oui, donc avec Aircal, donc pour le tourisme, c'est un partenaire essentiel pour les îles Loyauté. Donc ce qui se passe aujourd'hui, la situation financière d'Aircal nous inquiète et inquiète particulièrement tous les hôteliers et même les gîtes et tous ceux qui travaillent sur le tourisme. Donc on a des réunions régulières avec la direction d'Aircal pour connaître un peu la situation et voir comment eux sont en train de régler ces problèmes de retard d'avion ou d'annulation d'avion, parce que c'est des signaux, vous l'avez dit, hein, c'est des signaux qui sont négatifs qu'on envoie à une clientèle potentielle, donc ça c'est sûr.
Avec l'arrivée d'une nouvelle compagnie aussi, Air Océania, on en parlait aussi dans l'émission tout à l'heure, pour l'instant cette compagnie elle est surtout active sur Wallis.
Voilà, donc... je veux dire, c'est la même compagnie. Donc, la société, elle s'appelle Air Loyauté. Et le nom commercial, c'est Air Oceania. Donc, il n'y a pas eu de rachat de société. C'est la même société. Donc, juste un petit historique. Air Loyauté desservait les îles en inter-îles avec des twins. Donc, les twins ont vieilli. À un moment donné, l'activité s'est arrêtée, donc juste après le 13 mai. Et parallèlement, ils ont répondu à un appel d'offres sur Wallis et Futuna pour la desserte de Futuna. Ils ont été donc sélectionnés et l'activité s'est déplacée sur Wallis. Donc, c'est pas... Et par contre, l'activité sur les îles a diminué. Donc aujourd'hui, l'activité est plus importante sur Wallis et Futuna en termes de d'opérations et en termes financiers. Nous sommes ici en sur les îles, donc comme on a reçu le nouveau Tecna, donc on essaie de le mettre en place pour l'intérim, mais il y a encore des petits problèmes techniques à régler. Et ce qu'il faut savoir également, c'est qu'on est en discussion aussi avec les autorités wallisiennes. Donc eux souhaiteraient aussi participer à cette compagnie qui dessert Futuna. Donc on est en discussion, on va sûrement avec le président de la province des îles aller les voir à Wallis et Futuna. Et donc on va voir quel partenariat on va entreprendre avec eux, sachant qu'à un moment donné, il faudra couper les deux activités juridiquement.
L'auditeur tout à l'heure évoquait la question du siège social de cette compagnie. Puisque vous avez entendu cette intervention, vous avez quoi à répondre sur ça?
Non, mais c'est un peu la conséquence de l'activité des loyautés à Oceania qui s'est déplacée sur Wallis et Futuna. Et le fait de mettre le siège social sur Wallis et Futuna, c'est aussi, donc il y a des avantages fiscaux, donc. Qui est totalement légal puisqu'on se colle à la réglementation du territoire de Wallis et Futuna. Mais je disais tout à l'heure aussi, là je vous dis là maintenant, qu'on est en train de réfléchir pour séparer les deux activités. Donc en termes juridiques, ça veut dire à terme, peut-être qu'il y aura deux sociétés et on reviendra sur une société locale quand ça sera fait.
Concernant la desserte aérienne, toujours, il y a la question du tourisme international avec notamment l'aéroport de Lifou qui était censé donc pouvoir accueillir des vols internationaux. On en est où et quelle est la cible aujourd'hui? Alors, il y a notamment la question de Fidji qui est le hub le plus proche.
Aujourd'hui, donc, on a d'autres priorités, donc c'est vrai. Pour ce qui concerne donc les marchés émetteurs pour la Nouvelle-Calédonie, hein, je dis toujours, c'est des marchés historiques. C'est la métropole, c'est l'Australie, la Nouvelle-Zélande, puis donc peut-être qu'en septembre, ils vont peut-être revenir. Et puis le Japon, mais ça s'est arrêté. Donc à mon avis, vu que l'aéroport a été conçu pour accueillir des gros porteurs, il serait bien de regarder du côté de Fidji où il y a un hub. Il y a une clientèle américaine qui vont là-bas, qui est accueillie là-bas. Il y a peut-être des choses à voir pour qu'on puisse récupérer quelques touristes américains en faisant une liaison Fidji-Lifou. Mais tout ça. C'est
du temps long.
Pour l'instant, c'est que des intentions. Donc, il faut travailler.
Enfin, peut-être parler de la situation de la Sodil de manière un peu plus globale, qui est très endettée aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'il y a des activités qui s'en sortent mieux, peut-être pour compenser les pertes et l'endettement lié au Wadrabet notamment?
Alors, il y a le Sudil, elle appartient 100% à la société. Sudil gère le Bitichu. Donc, aujourd'hui, Sudil n'a pas besoin de la province des îles ni de son actionnaire. Donc, ils équilibrent leur compte.
Avec des investissements toutefois à faire bientôt, prochainement.
Oui, bien sûr, parce que c'est un bateau qui date maintenant de 20 ans. On y travaille, on est en train de travailler dessus parce que la catastrophe, ça serait qu'un jour le Betitio 2 s'arrête. Donc il faut absolument travailler sur le renouvellement de l'outil.
Parmi les activités, il y a aussi la vanille, notamment, qui fonctionne bien, le santal aussi.
Oui, donc voilà, c'était. Après, au niveau agro, donc, on a quand même des activités qui marchent. Hein. On a des producteurs, c'est des producteurs de vanille, il y a des producteurs de santal. Donc, il y a deux usines. Il y a celui de Marais, donc, il y a eu des soucis. Il y a une petite usine à Lifou, à Chépiné. Donc, ça fonctionne très bien. On a peut-être un peu.
Celle de Marais, elle refonctionne aujourd'hui parce qu'on se souvient de l'incendie.
Oui. Non, pour l'instant, ils n'ont pas encore réparé, donc ils sont en stand-by. Voilà, il n'y a que l'usine de Lifou là qui tourne. Bon, qui est d'une autre taille, hein, mais ça fait travailler du monde.
Et ça, c'est le but un petit peu de donner du travail à proximité.
Bien sûr. Donc, sur les îles, on est dans une situation économique où il n'y a pas beaucoup d'entreprises privées. Donc, ceux qui travaillent et qui ont un revenu sont des travailleurs soit à la province, soit à la commune. Donc, tout le reste de la population, je rappelle quand même, c'est que 95% de la population est à l'aide médicale. Donc, c'est un peu un repère hein, par rapport au niveau de vie des gens. Donc, les gens se débrouillent. Donc, celui qui travaille dans la petite usine de Santal, quand il y a un bateau de croisière, ben, il prend sa journée et donc il va vendre, il va faire ses petites prestations là-bas. Et chacun essaie d'arrondir ses fins de mois comme ça.
Eh bien, merci beaucoup en tout cas, Jacques Jalloué, d'avoir été avec nous ce matin pour nous parler de tous ces éléments-là.
Merci beaucoup, Nicolas.
Je rappelle que vous êtes président de la Sodil.